Hello les distordus. Avant de commencer, on souhaitait vous dire un petit mot sur notre page Patreon.
Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance, le tout sans publicité. On vous offre deux forfaits exclusifs pour nous supporter.
À 3 $ canadiens par mois, vous avez accès au forfait Distordu, qui vous offre un shout-out dans un épisode, l'accès au serveur Discord VIP, accès aux épisodes réguliers en avance, accès aux épisodes bonus en avance, 10% de rabais sur la boutique, et ce, à chaque mois.
On a aussi le forfait Oui, monsieur! À 8 $ canadiens par mois, vous obtenez tout ce qui est inclus dans le forfait Distordu. Vous avez en plus accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait, comme un after-show après chaque épisode, des interviews, des discussions off the record, etc. Vous avez aussi également accès à un épisode secret par saison, sans parler que vous avez accès aux épisodes secrets des saisons précédentes. Également, vous avez 20% de rabais sur la boutique à chaque mois.
Rendez-vous au patreon.com/distorsion pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de Distorsion.
On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute!
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
Attention American consuming public, you are being brainwashed. Engage ultracolor mode.
Hello, sweethearted consumer. Thank you for your attention. Would you like nothing more than to ascend into a higher realm of being?
Some of her videos on mental health save lives.
It makes it so that suicide can be our safety net or our reset button that's always available to us.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Est-il déjà arrivé de vous sentir seul au monde et sans support de vos proches et de votre entourage?
Internet est un lieu de prédilection pour les recruteurs de sectes et de groupes spirituels en tout genre.
Aujourd'hui, on s'intéresse à deux histoires de sectes à l'ère de YouTube. La première, le Unicult, s'intéresse aux extraterrestres et aux robots sexuels.
La seconde, celle de Teal Swan, utilise des techniques de marketing en ligne douteuses pour harponner des personnes vulnérables. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir?
Ça va très bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien aussi parce qu'aujourd'hui, on boit une bière qui vient de Sept-Îles, imagine-toi donc.
Oh oui.
Une bière, en fait, un package de bière qui nous a été offert par une distordue en personne au Festipod.
Exact, exact.
C'est gentil, ça.
Ah, vraiment, un beau cadeau de ta part. On boit la Sorensen IPA, en fait, mon cher Émile, qui appartient à la microbrasserie La Compagnie, qui est situé à Sept-Îles, comme tu disais.
Shout-out Sept-Îles.
Et oui, et notre distordu nous connaît bien. Hein, c'est une style IPA américaine, 5,5% d'alcool.
Légère quand même.
Oui, oui, oui. Puis un IBU, quand même une bonne amertume avec 50 d'IBU. Donc, elle est très, très délicieuse, honnêtement. Merci énormément à toi là, de nous offrir cette bière exclusive à Montréal, dans le sens que on est peut-être les seuls de Montréal qui la boit actuellement.
Oui, et malheureusement, on a oublié ton nom. Donc, oui. Si tu nous écoutes à l'instant, n'hésite pas à nous écrire pour nous le rappeler. Mais ça fait très chaud au cœur quand quelqu'un nous amène des beaux cadeaux comme ça.
Oui.
On a aussi un shout-out, là, une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Camille. Camille nous dit « Mais quel plaisir d'écouter Distorsion par une belle journée en ensoleillé dans un parc avec Lisbonne sous mes yeux. Un moment magique grâce à vous les boys. »
Oh, ça fait plaisir.
Shout out Camille. Aujourd'hui, on a un sujet très intéressant, mon cher Seb. On avait abordé le cas des sectes à l'ère numérique dans notre épisode sur le Nexium.
Oui,
on se rappelle avec Keith Ragneri.
Oui.
Et aujourd'hui, en fait, on pousse un peu plus loin la réflexion en s'intéressant sur comment certains groupes spirituels, comment certaines sectes utilisent YouTube, entre autres, pour véhiculer leurs messages, mais aussi pour recruter des gens Et vous allez voir, ça peut aller assez loin. Donc, c'est comme un épisode double aujourd'hui où Seb va nous présenter le Unicult et moi, en toute fin, je vais vous présenter le groupe de Teal Swan. Oui. Et aussi, en after show, donc pour nos abonnés Patreon au forfait Oui Monsieur, on a une histoire assez incroyable. Hein? Si tu peux nous en dire un petit mot, un petit tease.
Là, ben oui. En after show, on va vous parler d'un gourou qui est assez controversé, qui s'appelle Bentinho Massaro. Et lui, son objectif avec son regroupement, son culte, c'est d'upgrader la civilisation d'ici 2035. Donc, un objectif peu commun, avec beaucoup d'ambition, mais derrière, disons, cet objectif louable, il y a quelqu'un, disons, qui est à se méfier.
Absolument. Yes. Aussi, on vous rappelle que si vous voulez obtenir nos épisodes en avance et nos after-shows, ainsi que du contenu additionnel, du contenu bonus, vous pouvez vous abonner à notre page Patreon. Et aussi, on vous rappelle que notre livre Distorsion 2, des histoires et des crimes étranges de l'Internet, est disponible autant en papier dans toute bonne librairie, mais aussi en livre audio, si vous voulez entendre nos belles voix suaves.
Oui.
Yes. Là-dessus, Seb, je pense qu'on a assez dit de blabla. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans cet épisode à propos des sectes à l'ère de YouTube?
Oui, madame.
C'est parti. C'est parti.
Yeah.
Juste en débutant, Seb, on voulait émettre un petit trigger warning ici parce que l'épisode d'aujourd'hui va traiter de suicide, va aussi traiter de sujets à caractère sexuel et en fin d'épisode, on va vous donner des ressources. En fait, si vous avez des idées noires, si vous pensez parfois à mettre fin à vos jours, sachez que vous n'êtes pas seul, sachez qu'il y a des ressources qui sont disponibles pour vous et on vous revient là-dessus sans faute en fin d'épisode.
Absolument. Tu sais, Émile, l'homme a toujours essayé d'expliquer des choses qu'il était incapable de comprendre avec l'aide des dieux, hein?
Oui.
Avant que la science existe et tout ça. Puis même encore aujourd'hui, souvent, pour des événements incontrôlables, on a tendance à se tourner vers Dieu. On sait tous à peu près ce que c'est une religion, hein? C'est un système de croyance en un pouvoir surnaturel qui gouverne et contrôle les êtres mortels, hein? C'est ça la définition. Aussi, la religion, il existe également un système sacré et profane, en plus des rituels et des bonnes pratiques là, qui sont propres à chaque religion. En fait, ça fait un bout de temps que c'est implanté chez l'humain, hein, le concept de religion. Il y a des experts qui disent que la religion n'est qu'une partie d'une culture et que la croyance en l'existence de Dieu, et c'est ça qui constituerait la religion en tant que telle. Moi, je n'ai pas d'opinion, là, mais je trouve que ça fait du sens.
Ben oui.
Il existe aussi toujours un code de conduite dans une religion qui est censé être sanctionné par les dieux. Hein. Si tu ne fais pas telle chose, tu vas aller en enfer. Les personnes qui suivent une religion sont censées justement de suivre ce code de conduite ou de comportement. Cependant, avec le passage du temps et l'explication possible de tout ce qui nous entoure avec la science justement, le besoin de religion il a un petit peu diminué quand même au fil du temps. Hein. On le vit là. Moi, j'ai eu mon primaire, tu sais, j'ai eu la catéchèse,
ben oui.
On allait à l'église, les sacrements, les premières communions et tout ça. Puis aujourd'hui, ma fille, jamais on l'a inscrit à ça. On dirait que déjà, ça a sauté une ou deux générations là, de notre côté, là, du moins, là, même au niveau du baptême, etc.
Ben oui, au Québec, ça a été assez long avant qu'il y ait une séparation là, entre l'église et l'État. Puis on dirait qu'une fois que c'est arrivé, toute la religion s'est presque écroulée en quelques générations, en fait. Autant nos grands-parents, mes grands-parents, à moi, du moins, étaient très religieux, allaient à la messe tous les dimanches, autant mes parents, c'était tout le contraire, en fait.
Ouais,
n'étaient pas
ouais,
du tout religieux et tout ça. Moi, j'ai quand même eu des cours de catéchèse.
Oui,
je suis baptisé, j'ai eu ma confirmation. Ouais. Je sais à peine ce que ça veut dire, en fait. Mais tout ça, le but n'est pas de ridiculiser la religion,
non, en fait.
C'est encore très populaire. Mais disons que, ouais, au Québec, on a été un peu échaudés par la religion catholique.
Ah ben oui, puis c'était eux qui dirigeaient aussi. À l'époque, la religion et le gouvernement étaient très proches. On dirait que tout ça mélangé ensemble a amené une forme de dégoût, là, si je peux me permettre l'expression. Aujourd'hui, on va vous parler des cultes, hein, donc pas directement d'une religion en tant que telle. Juste pour qu'on comprenne bien le mot culte, parce qu'il y a des connotations qui sont similaires à la religion, mais il faut faire un peu les différences. Par exemple, un culte, c'est un ensemble de pratiques d'hommage ou de vénération autour d'une figure centrale, hein, qu'elle soit vivante ou non, à qui ce groupe-là reconnaît une dimension de supériorité d'excellence ou de sacré, là, quelque chose de sacré, et attribue des qualités remarquables ou exceptionnelles qui peuvent être considérées comme exemplaires. Il faut mentionner que le culte est un des éléments d'une religion. Hein. Indirectement, la notion de culte, vénérer Jésus, etc., ça fait partie de la religion. Si on va plus au niveau de l'étymologie pour comprendre le mot culte, en fait, ça vient du latin cultus, que lui est dérivé du verbe colère, mais pas la colère, mais pas d'accent. Et ça veut dire idolâtrer, et même au sens propre, ça veut dire cultiver. Donc, par extension, cultus veut dire rendre un culte. Donc, ça veut dire cultiver une relation avec une divinité et vouloir la faire fructifier. Puis c'est là que c'est important pour le plus grand bénéfice moral et matériel, donc la paix, richesse, prospérité, bonheur, santé, de l'individu ou de la communauté qu'il pratique. Donc, au niveau de la définition, un culte, c'est positif. Mm-hmm. C'est parce que ça, c'est juste dans le but de redonner du bien aux autres. Par contre, lorsqu'on parle de culte numérique ou sur le web, il y a une définition aussi pour ça. Ça s'appelle le cybersectarisme, en fait.
Qui est par... Oh, un nouveau mot?
Oui, on aime ça, les nouveaux mots. Qui est par définition le phénomène des nouveaux mouvements religieux et de d'autres groupes qui utilisent Internet pour la distribution de textes, pour le recrutement et le partage d'informations. Il faut se le dire, plusieurs cultes sur le web sont selon moi inoffensifs. Ce ne sont que des gens qui ont certaines croyances communes et qui les partagent ensemble. Cependant, d'autres cultes où l'objectif derrière semble plus malsain et pécuniaire que spirituel sont plutôt à surveiller de près.
Oui, tout à fait. Puis c'est vrai ce que tu dis. Je pense qu'il ne faut pas mettre tous les cultes ou même tous les groupes spirituels dans le même panier parce qu'il y en a en fait qui sont inoffensifs. Il y en a qui aident vraiment les gens.
Oui, oui.
Il y en a que c'est des regroupements de gens qui ont des valeurs communes, par exemple. Puis tu sais, c'est pas grave si les gens n'ont pas les mêmes croyances que tout le monde. T'sais.
Non, exact.
Sauf que effectivement, dans ce lot, dans cette botte de foin de cultes qui se sont multipliés, on dirait, à l'ère des réseaux sociaux. Plus que jamais même, mm-hmm. Autant des groupes de guérison que des, j'irais même à dire jusqu'à des communes, des festivals même spirituels qui mm-hmm. existent, qui mélangent même de la musique électronique avec de l'astrologie, avec des pratiques de tarot, avec mm-hmm. des choses comme ça. Donc, il y en a plusieurs au Québec. Donc, c'est vraiment, faut pas démoniser en fait tous ces groupes-là de, comment dire, d'entraide ou groupes spirituels. Puis j'irais même à dire, même il y a des groupes comme ceux qui vont... ceux qui vont motiver les gens, les Tony Robbins de ce monde, vont presque faire figure de culte aussi.
Absolument.
Auprès de leur communauté. C'est des gens qui vont tenter de d'aider des gens vulnérables qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de motivation, exactement, à différents niveaux. Donc, faut pas mettre tous ces groupes-là dans le même panier, bien évidemment.
Non, exactement. Puis, tu sais, aujourd'hui, comme par exemple le Unicall, dont on va parler, tu sais, c'est... moi, je trouve que certaines choses sont rigolos, hein, tu sais, dans leurs croyances et tout ça, mais c'est très personnel à moi, là, et je ne juge pas ça, là, juste, mm-hmm. j'aime mieux juste le dire d'emblée. Je vais commencer, mon cher Émile. À l'automne 2018, il y a un culte Internet qui a une certaine notoriété auprès des médias et du grand public, principalement américain, qui refait surface. Le culte autoproclamé comme féministe Unicult est dirigé par sa chef, une dénommée Unicorn, et non Unicorn. Hein? Et elle a fait bien attention de faire cette nuance-là parce que Unicorn, c'est une licorne.
Oui.
Et dans ce cas-ci, c'est Unicron. Donc, c'est pas exactement la même chose. Puis elle a voulu un peu s'en dissocier, même si elle utilise beaucoup les couleurs d'une licorne, disons, dans sa direction artistique.
Mais est-ce qu'elle s'appelle Nicole?
Écoute, j'ai jamais réussi à trouver officiellement son vrai de vrai nom.
Ah, pour vrai?
Même dans les entrevues et tout ça, mais je présume qu'elle s'appelle Nicole.
Oui.
Si elle a choisi ce nom-là, mais c'est jamais...
Ça serait logique.
Oui, mais jamais elle précise vraiment de manière officielle, j'imagine par confidentialité. Elle a pour objectif de mettre sur pied le premier bordel de robots sexuels qui demande le consentement du dit robot avant de se lancer dans ses tâches demandées.
Quand tu parles de bordel, là, c'est vraiment ce qu'on pense d'un bordel.
Oui, exactement. Là,
une maison close.
Oui, exactement.
Là, avec des prostituées.
Oui, exactement. Sauf que là, ça serait que des robots sexuels.
OK.
Et oui, puis
tu vas nous en parler plus en détail tantôt.
Oui, exact. Puis pour y arriver à mettre sur pied ce bordel de robots sexuels, Unicall met sur pied une campagne de sociofinancement sur Indiegogo pour lever des fonds. Elle a pour objectif de ramasser plus de 150 000 $ US sous forme d'investissement. Le sociofinancement, pour ceux qui l'ignorent, c'est un moyen pour les entreprises de lever des fonds en recueillant des petites contributions individuelles auprès d'un grand bassin de donateurs par l'entremise de plateformes en ligne comme Kickstarter, GoFundMe, Indiegogo, justement, pour ne nommer que celle-ci. Pour se financer, la plateforme, elle prend un pourcentage sur les revenus des campagnes de financement qui sont réussies.
Patreon est une forme de sociofinancement.
Oui, ben oui, exactement. Pour celles qui échouent à atteindre le montant voulu, les créateurs de la campagne ont le choix soit de rembourser intégralement les contributeurs sans aucune charge, soit garder l'argent collecté en redonnant un pourcentage au site web en question. Comme Indiegogo, il redemande 9% si ta campagne échoue. La campagne qui s'appelle Eve's Robot Dreams, donc les rêves de Eve le robot, de Unicult, nous est introduite comme suit. Entrer dans l'histoire et soutenir le premier bordel de robots au monde axé sur le consentement. Les clients peuvent visiter le café futuriste où ils peuvent découvrir les premiers robots compagnons du monde. Après leur rencontre, les invités ont la possibilité de passer du temps avec leur robot préféré dans une salle privée. Les invités peuvent commencer à établir une relation avec leur nouveau compagnon en téléchargeant l'application RealBotics sur leur téléphone. Je vous reviens sur l'app. Là. Lorsqu'ils visitent Eve, ils peuvent interagir avec le robot compagnon qu'ils ont déjà commencé à connaître, soit avec un robot ou avec un robot qu'ils n'ont pas encore rencontré. On nous mentionne également que c'est une entreprise qui est consciente et que la décoration intérieure qui sera conçue par l'artiste Marina Fini reflétera un espace de guérison. C'est bien beau tout ça, mais Émile, est-ce qu'un robot sexuel peut vraiment donner son consentement? T'sais? Est-ce que c'est possible?
Ben, on dirait que j'haïs pas l'idée sur papier,
non,
mais j'ai bien hâte de voir. J'ai bien hâte de voir comment tout ça va tourner. Là.
Justement, selon Blay Whitby, philosophe et éthicien de la technologie à l'Université de Sussex, les robots ne peuvent pas véritablement donner leur consentement. Ce n'est qu'une imitation très plausible de ce qu'est réellement le consentement. La technologie ne permet pas d'élaborer énormément et elles sont plutôt programmées, les poupées, pour répondre à des phrases clés là, comme « c'est OK avec moi », qui est une imitation assez faible de ce qu'est réellement le consentement. Mais les enjeux réels de la programmation d'un robot pour qu'il y ait un rapport plus égal, parce que c'est ça l'objectif, lors de rapports sexuels, sont moindres, selon le chercheur, que les conséquences réelles sur les clients. Selon le chercheur, les premières recherches sur les conséquences humaines des personnes qui ont des relations sexuelles avec du silicone sont assez sombres. Puis ça, on l'avait vu aussi là, dans notre show télé, on avait quand même couvert aussi le sujet, puis la finalité n'était pas tant positive. Il y a un rapport sur les implications des robots sexuels sur la santé, justement, qui a été publié par le BMJ Sexual and Reproductive Health, avertit, lui, que l'augmentation de l'activité sexuelle avec des robots pourrait éloigner certaines personnes de l'intimité humaine et appelle à remettre en question l'idée farfelue, et là je cite là, quand je dis l'idée farfelue, selon laquelle les robots sexuels peuvent contribuer à lutter contre la violence sexuelle des hommes.
C'est sûr que c'est un gros débat éthique et philosophique. Ouais. Est-ce que le fait, puis j'ai pas du tout la réponse, mais c'est sûr que la notion de consentement, on a l'impression qu'elle est éliminée avec un robot, mais est-ce que le fait d'être habitué à ne pas demander le consentement avec un robot va faire en sorte que tu vas moins le demander avec un ou une partenaire humaine, en fait.
Ouais.
C'est un peu ce qu'on avait discuté aussi dans notre émission télé, lorsqu'on avait discuté avec un producteur, un fabricant de poupées sexuelles. C'est la notion qui est un peu très délicate en ce moment. T'sais, est-ce que... comment dire? Est-ce que ça... ça peut empêcher d'une certaine façon la violence sexuelle parce qu'on sait que les hommes ont un problème avec le consentement.
Oui, oui.
Ou est-ce que ça n'aurait pas l'effet inverse, en fait? J'ai pas la réponse à ça.
Non, exactement. Puis si je me demande, est-ce que cette clientèle-là, va être justement, vraiment la bonne clientèle cible aussi, là, par rapport à vouloir changer un paradigme, ouais. Je sais pas, peut-être quand t'es rendu là, en tout cas, on se pose des questions là-dessus, puis on n'a pas la réponse, comme tu dis, c'est très philosophique, là. Revenons à la campagne de sociofinancement de Unicult. Malgré la publicité médiatique du projet, il n'arrivera pas à atteindre son objectif. En fait, il aura atteint un peu plus de 1% de la somme des 155 000 $ en amassant 2659 US exactement de la part de 10 contributeurs seulement.
Pas beaucoup.
Non. Puis bien que le concept d'un bordel de robots sexuels ne soit pas nouveau, hein, parce que ça, en 2018, il y avait déjà eu une première tentative à Houston, en fait, d'ouvrir la ville de Houston aux États-Unis, voulait ouvrir un bordel de robots sexuels, pas avec consentement, là, mais un bordel, disons, régulier. Mais il a échoué parce que, on sait, les Américains sont assez puritains. Et la stratégie pour empêcher ça, pour interdire ça, c'est que le conseil municipal a interdit les relations sexuelles avec des objets mécanique à l'intérieur des entreprises locales.
OK.
Donc, étant donné que des robots sexuels, ben, c'est des objets mécaniques, donc tu ne peux pas exploiter une entreprise, un bordel de poupées sexuelles. C'est...
Oui, mais généralement, quand il y a une loi, c'est qu'il y a eu quelques cas.
Oui, mais je pense qu'elle n'a même pas eu le temps d'ouvrir, en fait. Ils ont comme bloqué tout de suite quand il y a eu les intentions de lancer ça. Donc, c'est un peu... je trouve que là-dessus, des fois, les Américains sont un peu puritains. T'sais, je sais pas. T'sais, je trouve pas qu'il y a tant de mal à ça. C'est vrai que c'est un peu bizarre, puis c'est un peu hors norme, mais... on dirait que je l'aurais laissé aller un petit peu voir qu'est-ce qui se passe, là, mais j'imagine que c'est peut-être des endroits plus conservateurs.
Mais je pense pas que le Texas, dans le cas de Houston, soit un bon terrain d'expérimentation pour, justement, tenter de voir si un concept comme ça fonctionne.
Non, exact. Mais dans mes recherches de bordel, j'en ai trouvé un qui existe au Canada, à Toronto.
Oh.
Il porte le nom de Aura Dolls, où le client peut payer 120 $ de l'heure et 90 $ de plus la demi-heure pour faire ce qu'ils veulent, puis là, je cite, là, avec six poupées, là, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent aux six poupées du personnel. Et là, je lis la condition, vous allez rire, à condition que la personne ne fasse pas de trous supplémentaires en elle.
Okay.
Donc, faut pas altérer la poupée. Il ne faut pas se créer d'autres divertissements, disons. Et il faut aussi savoir qu'il existe des établissements similaires qui sont situés à Barcelone, Moscou et à Turin en Italie. Donc, il y a un petit marché quand même pour ces bordels-là de poupées sexuelles. Par contre, le terme bordel de robots sexuels parfois ne devrait pas être attribué, est un peu attribué à tort, parce que ce ne sont pas toutes les poupées qui ont une intelligence artificielle dans ces bordels-là. Mais celui de Unicult, c'était vraiment, puis je vais y revenir plus tard, là, c'était vraiment des vrais...
C'est l'objectif, là, oui. Qu'il y ait une intelligence artificielle.
Oui, exactement, avec une application et tout ça.
Donc, si la poupée, elle a la notion de consentement, elle peut dire non à un humain. Là.
Oui, exactement. Elle pourrait dire non. Puis, je vais expliquer le processus, là, comment qu'elle peut en arriver à dire non. Puis, c'est assez simple déjouer l'algorithme, mais bon. Le Eve's Robot Dreams, en fait, il est assez unique dans sa focalisation sur le consentement. En d'autres termes, pour ceux qui n'auraient pas compris, là, pour qu'un client ait des relations sexuelles avec l'un des robots du bordel, le robot doit d'abord donner son accord. Mais pourquoi un robot devrait donner son consentement, étant donné que c'est une machine qui n'a pas d'émotion, sauf celle que l'on programme? Hein? Puis ici, je parle vraiment de reproduction physique de nos émotions par les gestes ou la parole par l'intelligence artificielle, le programme qu'on a conçu. Eh bien, selon Unicult, l'objectif de Eve, en tant qu'aspect du Unicult, est de propager le changement matriarcal grâce à l'intelligence artificielle et aux robots. Parce qu'elle, c'est assez important pour elle, cet aspect-là, elle est très fan de technologie. Unicult a ajouté que le personnel d'Eve serait entièrement composé du modèle Harmony. Et ça, le modèle Harmony, il existe encore, hein, il est presque 7 000 $ US, puis c'est un modèle d'entreprise Real Doll X. Puis je crois que c'est l'entreprise qu'on avait discuté avec.
Carrément,
eux.
Ben oui.
Oui, exactement. Puis ça existe encore, là. Donc, vous pouvez la commander, il y a plein de modèles. Et supposément que, justement, Harmony, elle peut réchauffer les utilisateurs par leur conversation. Donc, pour avoir des relations sexuelles avec Harmony, les clients doivent accumuler des points de conversation. C'est là qu'on obtient une forme de consentement avec elle avant qu'elle consente au sexe. C'est qu'elle veut vraiment qu'on discute avec elle de différentes choses. Puis c'est pas expliqué le niveau de discussion, mais j'ai l'impression qu'il faut avoir un minimum d'échange pour que par la suite, elle puisse autoriser l'acte sexuel. Mais bon, je ne sais pas comment que si la personne passe pas le test, qu'est-ce qui se passe? Il y a une lumière rouge qui sonne et tout ça parce que ça n'a pas été mené à terme, donc on va vivre dans l'inconnu.
Ben, ça doit être une bonne shot d'humilité, se faire dire non par un robot.
Par un robot, oui, mais ça. Bon, je dois avouer que je trouve noble hein, l'objectif derrière le projet, tu sais, de changer les mentalités, mais je suis vraiment déchiré sur les moyens pour atteindre son objectif. Est-ce que l'on peut vraiment changer les comportements des hommes envers les femmes avec la clientèle qui adopte des poupées sexuelles? On dirait que si je me restreins à cette clientèle-là, puis c'est encore là, c'est sans jugement, mais j'ai l'impression que les gens qui vont vers ça, c'est que tu n'as plus d'autres options, ou du moins tu n'es pas à l'aise habituellement avec une femme, ou du moins tu n'as pas accès. Donc, est-ce que ça va vraiment changer ton comportement pour de vrai si après ça, tu tombes avec une vraie femme? Mais je pose la ouais. question sans jugement. Mais qui est ce culte-là là, qui veut promouvoir les robots sexuels oui. consentants? Là? Et c'est le culte, justement, qui a été créé par Unicorn Unicron. Elle a grandi à Longmont, qui est une petite ville agricole en banlieue du Colorado. Elle est née le 16 août. On n'a pas son âge, mais selon mon flair, elle est âgée en fond, fin vingtaine, début trentaine, peut-être un peu plus. Durant sa jeunesse, elle n'a pas vraiment été exposée à la spiritualité, sauf le christianisme. Elle a eu une enfance normale, elle a fréquenté le Colorado State University à Fort Collins, elle a étudié l'anglais, l'écriture créative, la poésie, le marchandisage de vêtements, l'art textile et les affaires. Donc, c'est une fille qui réussissait bien aussi à l'école. Unicorn a travaillé pendant plusieurs années en tant que professionnelle des télécommunications, à la fois pour CenturyLink, en tant qu'architecte senior, et ensuite, plus tard, elle a travaillé chez IBM en tant que spécialiste de l'approvisionnement en circuit. Elle a également enseigné des cours d'anglais à l'Institute of Business and Medical Careers. Ses écrits techniques et créatifs ont été publiés dans différents magazines, des manuels d'instruction, des blogs, des webzines et des revues littéraires. Même qu'elle a écrit des livres pour enfants, elle a fait beaucoup, beaucoup de choses quand même, là, en dehors de son culte. Cependant, son hypersensibilité et son désir de cadrer et de s'intégrer dans la société actuelle l'a malheureusement mené en 2009 vers une tentative de suicide. Or, elle a été miraculeusement sauvée de cette tentative par son père et le personnel médical. Durant cet événement, elle mentionne avoir vécu une expérience de mort imminente pendant 2 heures, en fait, ce qui la transforma à jamais. Suivant sa tentative, sa médication et son état d'esprit la limitaient dans les emplois qu'elle pouvait occuper parce que elle expliquait justement que, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'elle a fait, mais ça l'a magané au niveau de sa tête et tout ça. Là, donc, puis en plus, il te remédicamente pour contrôler des humeurs. Puis, oui. Elle n'arrivait pas à rien faire. Elle occupait juste des emplois dans des librairies ou des trucs comme ça. Vraiment des emplois de bon niveau parce qu'elle n'était pas capable intellectuellement de faire plus. Puis, c'est une fille qui travaille en technologie et tout ça. Là. Donc, pour elle, ça a été quand même un gros choc. Elle décida donc de déménager sur une ferme et d'arrêter complètement sa médication, le cold turkey, là, était tannée. Donc, une fois sur la ferme, mais c'est par ennui qu'elle décida de fonder son mouvement, le Unicult, en 2012. Donc, ça fait quand même pratiquement 10 ans là, qu'il existe aujourd'hui. Au départ, elle débuta timidement sur Tumblr, on connaît là, le réseau social d'images, et son mouvement croît très lentement. Cependant, c'est devenu ainsi son objectif de vie, et depuis, elle travaille chaque jour sur son projet. Sa mission est de changer la vibration de la Terre pour être plus alignée avec la promotion de la joie pour tous, ce qu'elle dit « Joy for all ». Unicorn Unicron est également une artiste, une pop star, une musicienne et une réalisatrice de vidéos. Là. Elle a fait plusieurs clips de musique, sont toutes sur YouTube aussi. Là. Je vais en parler un petit peu plus loin, mais c'est vraiment une artiste multidisciplinaire. Ici, là, c'est intéressant. Elle se décrit elle-même comme une conscience arcturienne, non-binaire de genre, née dans un corps humain. Elle est née pendant une période astrologique spéciale appelée le Grand Trigone, lors de la première méditation mondiale, connue sous le nom de convergence harmonique.
OK.
C'est assez particulier tout ça, mais c'est elle là, qui nous explique sa naissance. L'énergie unifiée de paix et d'amour qui a été cultivée ce jour-là lui a permis de s'incarner sur la planète Terre. Et un Arcturien est un habitant hypothétique du système planétaire d'Arcturus qui existe là. Donc, pour un petit cours d'astronomie 101, Arcturus, c'est une des étoiles les plus lumineuses de l'hémisphère nord. Elle est très proche du pôle nord galactique. Même souvent, je lisais qu'à l'époque, elle est près d'Hawaï. Puis souvent, les navigateurs, pour repérer Hawaï, s'en servaient comme destination, si tu veux, comme une forme de boussole.
Point de repère.
Oui, exactement. Ses parents se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient dans une usine de fabrication de bombes nucléaires. Donc, est-ce que ça aussi, ça...
Tout un background.
Oui, c'est assez particulier. Elle dit aussi que sa naissance a été prophétisée et elle soupçonne qu'elle est sous surveillance gouvernementale depuis, justement, sa naissance. Donc, tu vois qu'elle vit dans une réalité,
un peu alternative.
Oui, exact. Puis, elle remet beaucoup en question... l'autorité. Là, ça fait partie beaucoup de son message également. Elle a acquis une réputation dans les grands médias publics en déménageant à Seattle, à Washington, en 2015 et en faisant couvrir son histoire par l'émission True Life, I'm Starting a Religion, qui était diffusée sur la chaîne MTV, dans laquelle elle a été révélée qu'elle est la fondatrice du culte underground là, qui était, même à ce moment-là, là, connaissait une croissance rapide. Peu de temps après la diffusion de son émission, son personnage plus grand que nature, ses vidéoclips controversés et ses idées quand même futuristes ont commencé à attirer l'attention du monde entier. Hein, puis c'est ce que j'ai écouté en entrevue. Oui, elle a beaucoup de gens des États-Unis, évidemment, mais elle a des adeptes de partout dans le monde, dont même beaucoup au Canada, qu'elle disait. En 2016, il a été révélé dans un article de Motherboard qui appartient à Vice qu'elle est également une praticienne de la sorcellerie et leader d'un mouvement féministe appelé 3V3, qui se prononce Eve, hein, le 3 qui, quand on l'inverse, fait la lettre E, qui est composé uniquement de femmes et de sorcières non-binaires. Là, je cite, qui travaillent entre l'intersection de la magie et de la technologie et qui partagent l'objectif commun d'influer sur le changement matriarcal dans le domaine numérique. T'sais, même elle, son angle, c'est vraiment... puis je ne sais pas tout le temps comment elle fait pour l'adresser, là, t'sais, dans le sens que le changement matriarcal dans le domaine numérique, on dirait que ça, des fois, j'ai de la misère à saisir ce qu'elle veut dire. Là. T'sais, je comprends que les robots sexuels, le consentement,
ouais.
Elle accepte juste des gens non-binaires, des femmes, mais outre ça, je ne sais pas comment qu'elle... Qu'est-ce qu'elle veut? Comment qu'elle peut orchestrer ça, en fait, pour créer ça? Là? T'sais, parce que j'ai vu des hommes, pourtant, dans certaines vidéos qui assistaient à ces trucs. Donc, ça, on dirait que ça mélange un peu sur...
Mais c'est possible que ce soit des personnes non-binaires.
Oui, ben c'est ça. En le disant, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Mais bon, ça se peut qu'elle soit un peu plus lousse aussi quand quelqu'un s'intéresse à elle. Unicult communique avec les membres du Unicult par courrier postal aussi, même que l'inscription se fait également ainsi, là, je vais y revenir un peu plus tard, mais aussi évidemment elle communique via toutes les plateformes en ligne disponibles. À l'époque même, elle était une grande fan de Periscope, hein, Periscope qui était une plateforme de live streaming très populaire à l'époque.
De Twitter, oui, exact.
Oui, ah oui, c'était le fun, ça c'est triste un peu que c'est mort. Je trouve, on dirait qu'il y avait quelque chose de nouveau, une forme de révolution. Il n'y avait pas de live avant Periscope. Là. Après, c'est toutes les autres plateformes qui ont copié, Facebook, etc. Mais c'est elle qui n'a pas survécu. Elle faisait des lives chaque jour, tout en continuant à monter sa communauté sur YouTube. Et elle est même devenue maintenant, là, aujourd'hui, là, à comparer à YouTube, où elle a peut-être 15 000 abonnés, sur TikTok, c'est devenu une grande star. Même si vous cherchez le TikTok cult leader, c'est elle qui sort. Elle est rendue à 117 000 abonnés. Donc, c'est quand même, c'est fou, oui, hein. C'est 10 fois plus que sa chaîne YouTube. Donc, on dirait que son influence, tu sais, je regardais même, c'est sûr que dans les années où elle avait beaucoup de présence médiatique, là, 2015, tu sais, ses vidéos, il y avait des fois des milliers, même des millions de vues. Mais maintenant, dans le quotidien, ses vidéos YouTube, ils ont 300, 400, 500, 600 vues, tu sais. Puis, mais quand tu regardes sur TikTok, c'est une autre chose. Évidemment, la forme n'est pas pareille, hein. C'est des courtes vidéos, etc. Versus sur YouTube, elle diffuse ses messes, elle passe plein de messages, beaucoup plus approfondis, élaborés, mais quand même, hein, au niveau de l'influence, c'est assez incroyable. Elle anime des émissions en direct chaque semaine, elle produit régulièrement du contenu vidéo, des enseignements spirituels, comme je vous disais, sur YouTube, et elle organise plutôt un service religieux en ligne qui s'appelle UniChurch, pour ses adeptes chaque dimanche, dans lequel les téléspectateurs sont engagés par une grande variété de sermons. Là. Puis, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. C'est quand même rigolo. Puis bon, soit des gens s'amusent ensemble. Évidemment, avant la pandémie, elle disait qu'elle faisait beaucoup des get-together avec des potlucks puis des choses comme ça, mais ils ont quand même plus migré en ligne. Bien, c'est toujours diffusé en ligne, mais si quelqu'un était... où ce qu'elle habite, pouvait aller sur place là, pour y assister. Elle n'est pas fermée à ça, malgré qu'elle disait qu'elle préfère le mode de communication numérique, parce que c'est quelqu'un qui est très gêné, qui est une forme d'introverti, même si tu vois que c'est une extrovertie numérique, que je pourrais dire, mais dans la vie, elle est plutôt timide, donc ça, c'est un mode de communication qui lui va mieux. Unicorn est particulièrement ouverte en ce qui concerne sa vie personnelle, car ça fait partie intégrante de toute son image, hein, d'être honnête et ouverte avec ses fans. Elle a publié publiquement tous ses journaux personnels en ligne pour que quiconque puisse lire les détails les plus intimes de sa vie. Ça, je trouve ça particulier aussi, là, mais en fait, c'est transparent. Elle est aussi musicienne, productrice de musique. Elle a créé son premier album qui était disponible exclusivement sur téléphone mobile. Elle a des influences musicales de Britney Spears, Lady Gaga, Madonna. C'est pas si pire là, comme pop musique, j'ai écouté un peu. Elle associe souvent sa musique et son art à une nouvelle forme de lavage de cerveau, mais positif, qui est spécifiquement conçu pour soulager l'auditeur des fardeaux de la vie. Les thèmes des chansons tournent autour de la consommation, du capitalisme, du féminisme et des idéaux spirituels. Elle a sorti un deuxième album en 2015 et aussi plus récemment, elle a expérimenté une intégration des technologies, là, des battements binauraux. Là, moi, j'écoute justement de la musique binaural pour la concentration. Elle fait des enregistrements de ASMR et beaucoup de techniques de programmation subliminale profonde. Unicorn combine des sons avec des visuels assez puissants là, d'une manière, selon certains, révolutionnaire et positif qui affecte profondément et qui permet à l'utilisateur d'un effet bénéfique, là, selon ses dires. En plus des vidéoclips qui accompagnent ses chansons qu'elle produit, elle a également créé et sorti de manière controversée, ça j'ai pas réussi à mettre la main dessus, un film culte pornographique solo autoproduit en 2016 appelé guillemets, en fait, il n'y a comme pas de nom, mais s'il y a des guillemets dans le titre, mais il est, messieurs ou mesdames, ne cherchez pas trop, il n'est accessible que sur VHS, en fait, que ça réduit, disons, sa portée, puis je ne l'ai pas trouvé sur Internet, je l'ai cherché juste pour voir si ça se trouvait, là, mais...
Bien sûr!
Elle est également une peintre bien établie avec certaines de ses œuvres les plus commandées, se vendant pour des milliers de dollars, car la demande est encore plus élevée en raison de sa notoriété, là. Donc elle fait quand même assez d'argent avec ses toiles. En plus de peindre, d'écrire et de créer d'innombrables chansons et vidéos, Unicorn gère une boutique en ligne, hein, où les gens peuvent acheter des cristaux, des baguettes magiques, là, pas des baguettes de pain, des t-shirts faits maison, des bougies ou d'autres objets magiques. Également, elle offre plusieurs formations spirituelles payantes. C'est là que des fois, j'accroche moins. Là. C'est tout le décorum autour que là, il faut que tu achètes plein de,
ben oui,
de trucs. Là. Parlons un peu de sa croyance envers les aliens. Si vous voulez avoir vraiment le détail de ça, on en parle beaucoup dans plusieurs vidéos, mais elle-même... qui se dit provenir d'un système solaire hypothétique, je vous rappelle, arcturien. Elle croit en l'existence des aliens et en ferait partie également. Puis ce qui lui a confirmé ses croyances, c'est qu'elle souffrait de douleurs chroniques au dos depuis longtemps. Et à un moment donné, elle a rêvé qu'elle se faisait opérer par des aliens. Et elle s'est réveillée le matin et n'avait plus de douleurs du tout. Donc, elle a arrêté d'avoir mal au dos depuis ce temps-là. Donc, pour elle, ce sont les aliens qui l'ont guérie. Elle qualifie aussi ses membres comme des star seeds, des graines d'étoiles. Selon elle, les graines d'étoiles ont une signature énergétique super différente de celle des autres terriens. Pour cette raison, on leur diagnostique souvent une maladie mentale grave en raison de leur incapacité à vivre leur vie comme si de rien n'était. Là, je la cite. Ils peuvent voir la corruption en place très clairement. Tu vois, encore, elle revient avec le gouvernement, la corruption, etc. Certains membres pensent que Sheldon Cooper, là, de la célèbre émission Big Bang Theory, serait une forme d'archétype de l'Arcturian, de graines d'étoiles, le Starseed. Ce serait une représentation, en fait, de ce que pour eux est un Arcturian. C'est un peu particulier. Elle a été également dans la controverse durant la COVID-19 par ses positions anti-vaccins, contrôle du peuple par le gouvernement, encore une fois, parce que selon elle, comme plusieurs anti-vax, puis ça c'est très personnel, là, leur corps saura quoi faire s'il est malade. Donc ça, souvent, tu ne pouvais pas trop répandre ce discours-là. Là. Elle a été critiquée dans plusieurs médias par rapport à ça. Autre chose, cher distordu masculin, si vous êtes intéressé, elle se recherche un amoureux actuellement et un géniteur, en fait, qu'elle appelle Unimate. Et oh. Ça, elle en parle de long en large. Jordan Knight de Nighttime Podcast a fait deux entrevues avec elle.
Jordan Knight, ça c'est le chanteur
Des New Kids on the Block.
Oui, c'est Jordan Bonaparte.
Oui, Bonaparte, pardon. Jordan de Nighttime Podcast a fait deux entrevues avec elle, super intéressantes. Puis justement, elle en parle beaucoup plus en profondeur de son Unimate. Parce que c'est drôle, parce que puis même je trouve ça drôle qu'elle cherche un géniteur pour son futur enfant. Puis ses dernières photos Instagram, je trouve qu'elle se donne un... Je trouve qu'elle se donne des airs plus sensuels. Elle se met en bikini. D'habitude, elle ne faisait pas tant que ça. On dirait que, c'est une corrélation, mais on dirait qu'elle cherche à attirer une attention masculine plus que d'habitude, je trouvais, depuis qu'elle a mentionné ça. Bref, l'appel est lancé. Cependant, vous devrez partager les mêmes croyances qu'elle. Hein. C'est assez important. Donc, si vous ne croyez pas aux aliens, vous pouvez passer votre tour. Et je me demande combien qu'il y a d'actuariens compatibles avec elle. Parce que ça aussi, ça, c'est dans l'équation. Là.
Des actuariens?
Arcturien. Fait que c'est ça.
Arcturien, je crois.
Arcturien, c'est moi. Ben oui.
Tu nous fais un mélange entre les actuaires et,
oui.
et les Arcturiens.
Oui, tu as raison. Puis même pendant que j'écrivais l'épisode, souvent, je me trompais. Je ne sais pas pourquoi, c'est les actuaires en moi qui voulaient parler. Bon, ben là, vous avez entendu ça, vous vous dites « Ah, j'aimerais ça devenir membre ». Ben, c'est pas si simple. Hein? Si vous avez envie de vous joindre à son culte, il faut tout d'abord se rendre sur sa boutique en ligne et acheter une demande officielle à 11$ US pour une adhésion à vie à Unicult. Mais ça, c'est pas fini, là. Une fois que vous avez acheté ça, vous allez recevoir par la suite une demande papier qui va vous être envoyée par la poste et que vous devrez retourner le formulaire, en fait, pour être accepté à Unicult. Les questions sont assez intimes et personnelles là, de ce que j'ai vu de certains témoignages. Elles demandent des détails sur votre emploi, vos revenus, un peu comme toute bonne secte. Puis elle se défend en disant que c'est simplement pour mieux comprendre la démographie de ses membres. Donc, j'en doute un peu. Ensuite, vous aurez accès à la communauté en ligne. Cependant, il faut s'en mettre patience, car vu qu'elle traite chaque demande manuellement, ça peut prendre plus de 90 jours même avant de recevoir votre adhésion par la poste. Donc, si vous êtes, désespéré, c'est peut-être pas la bonne option à court terme. Aussi, elle nous propose, en plus de l'abonnement, de choisir le pack de démarrage, hein, un beau starter pack du Unicult pour seulement 55 et 55. Elle aime les chiffres, les suites de chiffres unitaires. On peut obtenir notre demande ainsi qu'une copie papier signée d'un livre, hein, parce qu'elle écrit un livre qui s'appelle Les fondements du Unicult. Tu peux avoir un cristal de quartz et d'autres matériaux de votre choix, un béret ou un bouchon. Je ne sais pas c'est quoi le bouchon en tant que tel, okay. Mais bref, c'est ce qu'elle offre dans le Starter Pack. Et vous pouvez même aussi l'appeler, j'ai pas osé, mais il y a un numéro de téléphone, c'est le 1-833-UNICULT. pour une ligne directe pour communiquer avec elle. Donc, je termine sur une citation de sa part. « Nous sommes la religion du futur parce que je viens du futur et tout ce que je défends et représente vient d'un temps futur. Je sais que c'est vrai parce que je l'ai vu se dérouler. » Et là, ce que je me demande, c'est est-ce qu'elle croit vraiment à tout ça?
Ouais, hein?
C'est ça aussi que je me demande, parce qu'il y a le personnage, puis ça, tu sais, je le comprends, là, tu sais, elle s'est montée une image, une business, puis à un moment donné, tu vois que ça fonctionne, tu sais, on dirait que des fois, c'est tellement dans le champ gauche, là, tu sais, que j'ai de la misère à croire qu'elle croit vraiment à tout ça, mais peut-être aussi, tu sais...
Oui, on dirait plus une artiste, en fait, qui essaye d'exploiter un peu la religion. Tu sais, on se rappelle, Lady Gaga l'a déjà fait avec ses... comment ça s'appelait le groupe de fans de Lady Gaga? Là, c'est Little Monsters, là, ou quelque chose comme ça.
Oui, les Little Monsters, ouais.
Tu sais, c'était pas une religion, non, là, mais c'était une forme de communauté autour de son univers à elle. Et bon, ces gens-là avaient des privilèges, il y avait de la marchandise pour eux, un site Internet. On dirait qu'elle joue un peu à cette corde-là, parce que même son concept de bordel, de robot sexuel, tu sais, c'est pas réaliste, dans le sens qu'elle l'a pas fait, là. Elle l'a pas, réalisé. C'est un projet qui n'a pas fonctionné. Donc, j'ai l'impression que c'est plus... Ça semble un peu moins sérieux, je trouve, son projet à elle.
Oui, il y a quelque chose. Mais Crème, malgré tout, elle fait la une de plein de magazines dès qu'elle parle de quelque chose. Tu sais, elle réussit à avoir une attraction. Mais c'est vrai que, tu sais, moi, ça fait des semaines là, que je l'écoute. Là. Même que ma fille, à un moment donné, elle pensait que j'avais un kick dessus. Elle ne savait pas trop que je travaillais. Elle disait, t'as l'air à l'aimer parce que tu écoutes beaucoup de vidéos d'elle. Mais c'est vrai qu'on finit à s'attacher à elle d'une certaine façon. Là. Tu sais, même je ne suis pas vraiment d'accord avec ses discours. Puis moi, ça ne me rejoint pas. Je n'ai pas besoin de ça. Là. C'est personnel. Mais elle a du charisme. Puis c'est ce que je remarquais. C'est ce que je me disais. C'est que tous les gens qui sont à la tête de ces cultes-là, ils ont toujours une forme de charisme.
Oui, c'est nécessaire.
C'est pas nécessairement les plus belles, mais c'est ça. Fait que ça, on dirait que je me ramène à ça, là, c'est que ces gens-là, on dirait qu'ils développent une force, puis une attraction, puis ils l'utilisent, même par le web, hein, le charisme se transfère par l'écran. Là. Donc voilà, fait que c'était mon... ma vision un peu de la secte Unicult.
Yes. Et après cette petite pause musicale, on revient avec l'histoire troublante de Teal Swan. Teal Swan représente un nouveau style de gourou ou de leader spirituel. On verra éventuellement si on peut la qualifier ainsi. Elle est un peu un mixte entre une guérisseuse moderne et une influenceur Instagram, donc un peu un mélange des deux. Okay. On dirait que maintenant, les gourous nouveau genre n'ont pas le choix d'être un peu influenceurs.
Exact.
Elle a un regard extrêmement perçant, avec ses yeux verts, un visage bien découpé, une chevelure noire soyeuse. Elle a définitivement un charisme indéniable.
Oui.
Elle est aussi une femme de son temps, c'est-à-dire que contrairement aux gourous nouvel âge des générations précédentes, Teal Swan s'habille avec un look contemporain et utilise les médias sociaux d'une manière très efficace. Elle va même publier des mèmes parfois et elle va utiliser chaque plateforme à bon escient. C'est vraiment une championne des réseaux sociaux. Mmh. On voit qu'elle a une équipe aussi avec elle pour créer tout ce contenu parce qu'elle est très active et a fait du contenu, bon c'est discutable, mais je dirais de qualité. C'est-à-dire du contenu qui fonctionne bien, qui est bien, bien tourné, bien réalisé.
L'enveloppe est belle.
Yes. On en sait peu sur son enfance, par contre. On en sait peu aussi sur ses études et sa vie familiale. Mais il y a quand même des choses qui sont disponibles. Selon son site web, entre autres, Teal est né à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, en 1984. Dès son plus jeune âge, elle a commencé à manifester des capacités extrasensorielles, selon elle et même selon ses parents. Parmi ces capacités, on trouve la clairvoyance, la clairaudience, la capacité à manipuler les champs électromagnétiques et la capacité à communiquer avec des formes de pensée diverses.
Mais dis-moi, la clairaudience, c'est-tu de ressentir ce que ressent ton audience?
Je crois que c'est plus en lien avec l'audio, mais je crois qu'elle peut entendre des choses.
Okay,
mais écoutez, c'est des spécialistes de la clairaudience dans la salle. Écrivez-nous et parlez-nous-en.
Oui.
Depuis lors, Teal est devenu un catalyseur spirituel, utilisant ses capacités pour rappeler aux gens la nature énergétique de notre univers et pour leur apprendre à trouver le bonheur au milieu des circonstances les plus extrêmes. Elle est issue d'une famille de hippies qui vont l'intégrer à différentes communautés au fil de sa vie, voire des sectes. Ses capacités l'ont prétendument éloignée de ses proches. Elle est devenue ostracisée et a été victime d'abus et de violences sexuelles. Dès l'âge de 6 ans, Swan dit avoir été abusée, violée, droguée et torturée psychologiquement par un ami de la famille qui promettait de l'aider à guérir. Donc c'est très louche tout ça, elle a un passé assez, assez trouble. Elle a par la suite déclaré au Huffington Post qu'elle avait également été intronisée dans deux cultes sataniques distincts où elle a participé à des sacrifices et à des rituels religieux. Ouais, elle aurait fait partie de cultes là, qui ont été en lien avec la Satanic Panic là, dans les années 90, entre autres. Là.
Okay.
Donc, c'est pas retrouvé avec les meilleures influences autour d'elle de ce côté-là. Et là, je la cite, « Quand j'avais 12 ans, j'ai été placé sur une table métallique dans un cabinet vétérinaire après les heures de travail. Le formateur du groupe sectaire avait un filet noir sur le visage », a déclaré Teal. « Il m'a branché à des électrodes, plaçant du gel sous chacune d'elles et a utilisé un vieux projecteur pour projeter des images de carcasses d'animaux morts sur le mur en face de moi. Chaque fois qu'il changeait la diapositive sur l'écran du projecteur, il me donnait un choc. Il n'arrêtait pas de dire « Regarde ce que tu as fait », encore et encore, essayant de suggérer que j'avais tué tous ces animaux. »
C'est fou, hein?
Oui, donc il y avait une forme de lavage de cerveau là, qu'elle aurait subi là, pendant son enfance.
C'est un comme d'effet pavlovien, un peu, tu sais, dans le fond, tu vas associer l'image
oui, mais carrément.
Choc, là.
Ouais, puis peut-être tenter même de modifier les pensées, modifier les souvenirs en disant ça, là, en ayant une réponse très, très directe avec choc électrique, là, tu sais, en tentant de la convaincre qu'elle a tué tous ces animaux. Là.
Mon Dieu.
Adolescente, Swan a tenté de mettre fin à ses jours et a été envoyée chez un psychiatre dont les techniques, selon elle, n'ont pas fonctionné. Swan a réussi à s'échapper de deux sectes à l'âge de 19 ans et à parler des abus qu'elle a subis pendant longtemps. Elle se souvient en disant « Ma mère m'a amené chez tous les thérapeutes possibles et imaginables et j'ai reçu tous les diagnostics possibles, schizophrénie, bipolarité, borderline et j'en passe. » Donc, elle avait de la misère à mettre le doigt sur sa maladie ou du moins ce qui la distinguait, là, ce qui la rendait ostracisée à ce point-là. Au début des années 2000, Teal va en Chine avec sa mère pour tenter de comprendre un peu plus là, ses pouvoirs. Là-bas, elle va rencontrer des chamans et des guérisseurs pour l'aider à en savoir plus. Elle affirme qu'en présence de ses leaders spirituels, elle se sent enfin elle-même et moins ostracisée. En Chine, on lui a appris que ses pouvoirs spirituels devraient être mis à profit dans le but d'aider les autres qui pourraient en bénéficier. À son retour aux États-Unis, elle tente de vivre une vie normale en s'engageant dans différentes activités. Elle commence à faire du modeling et elle rejoint aussi l'équipe américaine de ski Télémark, car elle est une grande fan de ski et elle croit y voir là, un potentiel avenir. Elle a de la difficulté à naviguer au travers de relations amoureuses. Étant jeune adulte, elle va rencontrer un certain Blake lors d'une fête au collège. Au départ, il ne fait pas super bonne impression, Blake, car il semble chercher beaucoup d'attention, mais au final, il deviendra l'homme le plus important dans la vie de Teal. Elle va se sentir réconfortée par lui, comprise et en sécurité. Ils vont demeurer plusieurs années ensemble, et même lorsque Teal aura d'autres compagnons, Blake va toujours demeurer pas loin. Teal aura entre autres 5 mariages en 7 ans.
Mon Dieu.
Elle va rencontrer un certain Mark Scott avec qui elle se marie et accouche d'un enfant nommé Winter 4 ans après leur mariage, en 2010. Selon Teal, Winter a aussi hérité de ses pouvoirs extrasensoriels. Après 7 ans ensemble, le couple se sépare et Winter demeure avec Teal. Winter va beaucoup l'inspirer dans ses écrits et dans ses vidéos. Il va jouer un rôle central dans l'équilibre mental de Teal. On ne connaît pas tous ses amoureux à Teal Swan, mais un autre qui est tout de même connu est Al Jico, qui lui aussi est un guérisseur et un guide spirituel français. Peut-être que nos auditeurs ou auditrices français savent qui il est. Moi, je ne le connaissais pas.
Moi non plus.
Ils vont vivre ensemble une vie idyllique, là, exemplaire. Ils vont faire beaucoup de voyages, même faire des vidéos ensemble. Souvent, Al, lui aussi, il fait des vidéos un peu de nature spirituelle, guérisseur et tout ça. Puis, il va souvent mentionner Teal. Il va souvent l'inclure dans ses vidéos, dans ses publications Instagram aussi. Mais finalement, ils se séparent en 2018 après 2 ans de relation. Au fil du temps, Swan a lancé sa chaîne YouTube et a commencé à télécharger des vidéos sur la guérison, la santé mentale, les manifestations et d'autres sujets de développement personnel. Elle a également écrit 6 livres et organisé toute une série d'événements allant de discours en direct à des cours personnalisés sur l'amour de soi dont le prix s'élève parfois à 400$ et même de nos jours encore beaucoup plus selon certaines autres formations. Sur son site Gumroad, qui est un site de vente de marchandises, en fait, là, on peut voir qu'elle vend aussi des MP3 de méditation sur différents thèmes, ainsi qu'une application de tarot. Encore une fois, pour revenir à ce que tu disais, Seb, la marchandise est très présente.
Ouais.
Puis ces gens-là doivent avoir des revenus passifs énormément.
Exact.
Donc, c'est pour ça qu'ils ont énormément de choses à vendre sur leur site web. Ça semble être un dénominateur commun là, auprès de ces leaders spirituels. Teal est aussi peintre depuis longtemps. Il y a certains membres de son cercle fermé qui l'ont découvert avec ça, des gens qui ont rejoint son groupe en la découvrant tout d'abord comme peintre. Elle vend des œuvres depuis plusieurs années, depuis encore plus longtemps qu'elle a sa chaîne YouTube. Elle affirme faire de la peinture vibratoire. C'est-à-dire que grâce à ses perceptions sur l'énergie, elle met en forme des vibrations en œuvre d'art et la personne qui la regarde par la suite peut ressentir dans son physique et son mental ces vibrations énergétiques. Lorsque tu cliques sur une œuvre d'art sur son site, c'est le paradis du dropshipping. C'est-à-dire que tu as deux pages d'items divers là, que tu peux acheter avec l'œuvre dessus. Okay. Et ça va du bikini au recouvrement de bancs de voitures de course.
Okay,
donc,
même.
Si vous pensez que Distorsion, on a beaucoup de marchandises, la boutique de Teal Swan, ça n'a juste aucun rapport. Là. Tu vois son œuvre d'art, puis tu peux l'acheter dans plein de déclinaisons. Je ne sais pas le nombre de gens qui achètent des recouvrements de voitures de course avec son visage ou avec des peintures qu'elle a fait, là, mais on retrouve de tout. Là. Évidemment, des chandails, des objets promotionnels, des livres, coussins, des coussins, des tote bags, des choses comme ça, et des bikinis aussi. Donc, name it, mais c'est presque trop. Tu sais, quand tu arrives sur la page de l'item, il y a tellement de possibilités. Des fois, c'est un peu too much, là, je trouve. Là. Mais vraiment, tout est fait pour vendre. Puis ici, tu sais, aujourd'hui, on veut pas rire de ces croyances-là, de la croyance de la peinture vibratoire. On en parle un peu avec humour depuis tantôt, des cristaux, de ces choses-là, à chacun sa croyance. Hein. Ici, on juge pas les gens, mais dans certains cas, on a l'impression que c'est un petit peu gimmick. Hein. C'est un peu... Tout ça est souvent destiné à remplir les poches de son équipe. Là,
exact. Puis c'est drôle, hein, parce qu'il y a encore un dénominateur commun avec Unicole. Elle fait de la peinture, elle vend bien ses toiles. On dirait qu'ils ont beaucoup... Ce sont souvent des artistes hein, aussi, on dirait, hein, par défaut. Hein.
Exact. Je vais vous parler maintenant de sa chaîne YouTube parce que c'est un peu sa plateforme principale. C'est le moteur d'engagement de toute sa communauté. Là. Et elle a des millions de fans. Là. Et les adeptes de Swan, ils forment la tribu. On l'appelle la tribe. Et pour la plupart, ils l'ont découvert sur les médias sociaux, là, notamment sur YouTube, où elle compte actuellement 1,3 million d'abonnés. Et je crois à ce stade-ci, là, plus de 60 millions de visionnements de ses vidéos.
Quand même.
Elle a rejoint la plateforme le 26 janvier 2011, selon sa chaîne, et elle a plus de 900 vidéos à l'heure où on se parle. Donc, ça en fait des vidéos par année là, produites par Teal Swan. C'est beaucoup. Et la plupart de ces vidéos sont constituées d'un monologue de Teal sur un sujet précis. Et dans ces sujets de prédilection, là, on retrouve les relations humaines, la guérison émotionnelle, la spiritualité, l'énergie, les chakras, la parentalité. Mais ça va plus loin que ça. Là, on parle aussi de méditation et de plusieurs autres sujets qui sont parfois plus légers, comme l'alimentation, la finance, des choses comme ça. Donc, elle est un peu un tout inclus de conseils en tout genre qui en font un peu une guide spirituelle idéale, peu importe ce qu'on recherche dans notre vie. Et c'est assez facile, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. En fait, c'est assez difficile de pas tomber sur des vidéos d'elle lorsqu'on l'a à Google. Donc, c'est une maître des algorithmes là, des réseaux sociaux. On aura la chance d'en reparler tantôt. Mais quand je tombais sur elle, justement, je me disais... C'est vraiment un peu un tout inclus. C'est un buffet de services, de guérison, de spiritualité. Là, tout est inclus. Peu importe ce qu'on recherche, elle va toujours avoir une vidéo pour nous. Là. Si on parle de la forme ou de la réalisation de ces vidéos, souvent, elle s'adresse à nous les yeux dans les yeux. C'est très hypnotisant comme vidéo. Hein? Elle s'adresse à son public devant un décor souvent un peu nouvel âge, voire psychédélique. Là. Et on est rivé à ses yeux, on est collé à ses lèvres, on l'écoute parler. Et assez rapidement, là, elle a un timbre de voix qui est très bas, très monotonal, je dirais. Là. Et justement, ça fait en sorte qu'on est presque dans un état méditatif en le regardant. Puis on a la difficulté, en fait, à décrocher. Là. Donc, moi, c'est moins mon genre de gourou parce qu'elle parle aussi très vite. Hein. Elle parle vraiment, vraiment vite. Elle va être beaucoup pas de filtre. Hein. Elle va dire beaucoup de fuck. Tu sais, elle va être très, comment dire, très directe, sans filtre et tout ça. Et elle va parler vraiment, vraiment très vite, parfois sur un ton un peu autoritaire.
Okay.
Dans d'autres vidéos, elle est plus calme, je dirais. Mais en général, c'est ça. Elle a un regard sévère aussi. Moi, j'ai l'impression, quand je la regarde, je me sens jugé. Moi, je suis moins réceptif à ce... Comment dire? À elle de ce côté-là. Parfois, elle va donner des bons conseils. Par exemple... sur comment gérer certains comportements de nos enfants. Tu sais, je suis tombé sur une vidéo qui était très intéressante, en fait, où elle expliquait que les children feel the way they want you to make you feel, en fait, là. C'est-à-dire que les enfants ressentent une émotion et ils tentent souvent de te faire ressentir la même émotion, souvent des crises, en tentant d'autres trucs. Ouais. Dans certains cas, je trouve que c'est... elle peut donner des bons conseils, hein, même si c'est pas une éducatrice ou une sociopédagogue. Puis aussi, elle a des bons conseils de méditation. Bon, c'est des conseils qui sont très valides. Mais dans certains cas, malheureusement, elle s'avance sur des terrains qui sont très glissants, surtout en psychologie. Okay. Lorsqu'elle tente d'aider des gens qui ont des pensées noires ou des envies suicidaires ou des gens qui ont des problèmes un peu plus graves, là. Parce que, ben, Teal, en fait, elle n'a aucune formation pertinente pour traiter de cas de dépression ou d'anxiété ou des choses comme ça. Elle n'a pas de formation en psychologie. C'est quelqu'un qui a abandonné ses études très tôt, donc il n'a pas forcément de qualification. Après, je sais que pour être un coach ou pour être, un guide spirituel ou un prof de méditation ou autre, t'as pas besoin d'une tonne d'études. Mais le problème avec Teal, ce qui est tout le temps le problème qui va revenir, et vous allez voir, ça va aller très loin, c'est justement sa gestion des théories en psychologie, n'ayant pas ce background-là. Elle va s'avancer sur des terrains qui vont influencer les membres potentiellement négativement, n'ayant pas cette expertise-là. Mm. Plusieurs personnes viennent vers elle avec des problèmes de maladie mentale à divers degrés et souhaitent trouver une forme de guérison auprès d'elle. C'est normal, donc elle s'adresse à la base à une clientèle un peu vulnérable. Mmh. Et elle, ben, elle est dans une position d'autorité auprès de personnes sensibles, donc il y a toujours un petit risque à ce moment-là. Si on la compare à Unicall, qu'on parlait tout à l'heure, ben, Unicall, je pense que oui, elle recherche à recruter des gens qui ont peut-être certaines vulnérabilités certains besoins, mais en même temps, je sais pas à quel point elle les conseille au niveau psychologique et autres. Elle semble avoir un autre combat au niveau du matriarcal, et des technologies numériques. Ouais, tandis que Teal Swan, elle s'adresse directement aux gens là, avec des conseils. Là. Donc, c'est là que ça peut être dangereux quand certaines personnes sont plus en danger d'une certaine manière. Ça peut avoir un effet dévastateur parce que dans sa philosophie, notamment à propos du suicide, ben le suicide est perçu un peu comme une forme de bouton reset, tu sais. Donc pas qu'il est banalisé, mais il arrive qu'elle en parle avec une certaine forme de distance qui fait en sorte que elle va pas insister pour que quelqu'un s'accroche à la vie, mettons. Mais on va y revenir plus tard.
Mais est-ce qu'elle a des notions de réincarnation et tout ça, ou même pas, elle touche jamais à ça, hein, j'imagine? Parce que quand tu parles de suicide sous forme de bouton reset, un reset, c'est que tu recommences. La mort, si tu crois pas à la réincarnation, ça se finit là.
Oui, donc, mais elle croit... écoute, je suis pas assez expert en ses croyances pour savoir si elle croit vraiment à la réincarnation, mais c'est sûr qu'elle croit en la vie après la mort. Il y a quelque chose après la mort, sans doute une deuxième vie ou quelque chose comme ça. Parce qu'elle prétend elle-même avoir, tu sais... elle prétend avoir vécu des milliers d'années, d'il y a longtemps, d'avoir eu plusieurs vies, d'être empreinte de sagesse et tout ça. Donc, j'ose croire qu'elle doit croire en la réincarnation. Mais s'il y en a qui en savent un peu plus, éduquez-nous là-dessus. Oui. Parce que je suis allé voir rapidement, puis j'ai plein d'amis communs sur Instagram qui la suivent. Les gens la suivent pour différentes raisons, mais bon... j'espère que ces personnes-là savent qui est-ce qui s'adresse à eux, là, exactement. Là. Si je reviens rapidement à sa chaîne YouTube, on voit que son équipe prend la chose très au sérieux pour contrôler l'algorithme. Non seulement ils font des belles vidéos professionnelles avec des caméras de qualité, mais en plus, ils font un marketing assez solide. Ils le font tellement bien en utilisant des titres hyper précis ainsi que des tags qu'il est presque impossible de trouver des vidéos qui la dénigrent. C'est vraiment troublant. Moi, je cherchais justement, je me disais, il y a sûrement plein de YouTubers qui ont parlé de Teal Swan. Il y a sûrement des vidéos vidéos qui la dénoncent. Il y en a quelques-uns, mais c'est enseveli sous ses 900 vidéos parce qu'avec ses titres, elle réussit toujours à contrôler l'algorithme. C'est vraiment fascinant. Puis en plus, elle l'a confirmé elle-même dans un podcast qui s'appelle The Gateway. Ça va te troubler, Seb, parce qu'elle utilise sur le web le SEO, le Search Engine Optimization, le référencement en français, afin de cibler des gens vulnérables qui sont parfois suicidaires ou qui parfois vivent des dépressions. Par exemple, elle va mettre dans ses tags des phrases comme « How to end my life » ou des phrases, elle va utiliser les Google Trends pour aller chercher des phrases les plus recherchées chez des personnes qui ont besoin d'assistance. Ouais. Je ne sais pas moi comment se suicider sans souffrir, comment mettre fin à mes jours.
Comment refaire sa vie.
Quel est le sens de la vie. Oui, des questions que les gens vont comment aimer sa vie, des choses comme ça que les gens vont googler. Ben, elle va mettre ça dans les tags, elle va mettre ça dans les titres des fois. Elle va changer les titres pour que ce soit plus pertinent, elle ou son équipe, là, mais afin de cibler ces gens-là. Là, et elle va faire même chose sur ses sites, dans ses articles, pour que les gens qui recherchent ces termes tombent sur son contenu. Elle va tenter d'être plus forte en SEO que des organismes qui vont, par exemple, aider à la prévention du suicide, par exemple. Exact. Donc, son équipe a cette notion de contrôle du message puis de canalisation des recherches sur Google vers le site de Teal Swan. T'sais. Quand tu tentes de chercher, par exemple, parce qu'il y a eu des scandales, on va y venir... Quand on tente de rechercher des infos sur ces scandales, sur les événements qui sont survenus, on tombe tout le temps en premier sur des articles. Teal Swan répond aux accusations sur tel truc. Teal Swan adresse les inquiétudes au niveau du suicide. Donc, elle contrôle vraiment l'algorithme. C'est les champions de Google.
Puis c'est ça, Google, en plus, quand ça fait longtemps que tu as le même site web, le même nom de domaine, que tu parles des mêmes choses, puis si tu le fais bien depuis le début, t'écrases tout le monde. Un peu comme tu disais, même les entreprises qui... ou du moins les organismes qui sont dans la prévention du suicide, s'ils sont moins vieux en termes de nom de domaine qu'elles, ou que justement, souvent, ils n'ont même pas les moyens d'avoir des stratégies de contenu, de référencement organique, de SEO comme elles, c'est sûr qu'ils passent en deuxième. Puis c'est là que tu vois qu'il y a une forme d'injustice dans ça. Là. C'est particulier.
C'est encore une fois, c'est l'argent qui gagne, souvent.
Exactement.
Puis de cette façon, ben, elle s'assure d'avoir une arrivée constante de nouveaux abonnés là, susceptibles de devenir membres de sa communauté et de sa tribu. Là. Donc, il y a un flot constant de nouvelles personnes qui rejoignent sa communauté. Dans un autre ordre d'idée plus léger, elle va aussi cibler des gens, par exemple, qui s'intéressent à la crypto-monnaie ou encore des gens qui recherchent des conseils amoureux. Puis ces ciblages, encore une fois, vont lui conférer une base d'abonnés fidèles qui vont tomber sous son charme lorsqu'ils sont en phase de vulnérabilité. Car apparemment que bien des gens vulnérables qui ont des problèmes dans leur vie vont investir en crypto-monnaie. En fait, il y a une corrélation entre des gens qui, peut-être qui souffrent intérieurement et qui, je sais pas moi, des gens, par exemple, qui vont être fâchés contre la société, contre le gouvernement. Donc, elle va cibler des termes de recherche en lien avec la crypto, puis des sujets comme ça, tu sais. Puis, ces gens-là vont découvrir le beau visage de Teal Swan et vont tomber sous son charme. Donc, c'est un peu insidieux tout ça, là. Je vais vous parler de ses retraites aussi, parce qu'elle fait des événements dans la vraie vie, puis ça peut être assez troublant, là. En 2018, elle lance des retraites dans un nouveau lieu qu'elle a acheté à Atenas, au Costa Rica, qu'elle nomme Filia. Ce lieu deviendra un peu le jardin d'Éden de Teal, et ses fans vont payer des grosses sommes pour assister à des retraites. La retraite Completion Process, qui est basée sur un livre du même nom qu'elle a écrite, va s'y tenir, entre autres, et sera une des retraites les plus courues. Et là, je vais vous en parler un peu de cette retraite-là. Le completion process, c'est une méthode qui prétend guérir les traumatismes du passé. En même temps, il peut être en fait très dangereux. Teal croit que l'utilisation du completion process aidera à réparer les traumatismes enfouis profondément dans la mémoire d'une personne. Le processus a aussi le potentiel de causer plus de traumatismes qu'il en guérit, selon des thérapeutes, mais aussi selon des gens qui y ont assisté. Parce que le processus, dans le fond, consiste à extraire les traumatismes de l'enfance que vous avez refoulés et à travailler avec eux dans un endroit sûr, là, un safe space, là, selon Thiel. Le processus d'achèvement, en français, là, amène le travail sur l'enfant intérieur à un niveau supérieur et révèle qu'il s'agit de bien plus qu'une technique d'auto-assistance pittoresque. Et ça, c'est un extrait du livre, là. Le problème, c'est que l'idée des souvenirs refoulés en psychologie, c'est pas quelque chose qui est accepté formellement par la majorité des professionnels du domaine. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est de la foutaise. En fait, la raison, c'est que l'idée d'un souvenir traumatique qui est vraiment refoulé, qui s'est produit dans l'enfance, est extrêmement rare, en fait. Okay. En général, l'enfant va s'en souvenir pleinement de l'événement traumatique. Il arrive dans certains cas que c'est pas le cas. Ouais. On l'a vécu aussi. Mais elle, en tentant de devenir experte de ce processus-là, eh bien, elle court un autre risque, en fait, qui est de travailler avec des souvenirs d'enfance qui sont prétendus, donc qui ne sont pas réels. Il est même possible qu'un souvenir soit implanté dans la personne.
Ah, ben oui.
Par simple suggestion, même accidentelle, qu'une personne puisse créer un souvenir de quelque chose qui n'a jamais existé. On le voit souvent dans les histoires d'interrogatoires policières. On le voit à l'œuvre dans le documentaire, entre autres, de Deep End, que je vais vous parler tout à l'heure, à propos des retraites de Teal Swan. Et un ex-participant affirme avoir basé plusieurs décisions de sa vie suivant une retraite de Teal Swan du Completion Process, basé sur un traumatisme vécu dans l'enfance, qui était en fait un viol par son proche, je crois que c'était son père, à cet homme-là. Et finalement, il s'est rendu compte avec le temps, après avoir quitté le groupe de Teal, que ce souvenir n'est jamais vraiment arrivé. En fait, c'est dans l'espèce de session spirituelle qu'ils ont fait de un peu des fois ça peut ressembler à du brainwashing, des fois ça peut ressembler à une psychothérapie, mais c'est pas clair, mais c'est très intense. On va lui poser souvent les mêmes questions, on va lui suggérer des trucs, la personne va devenir émotive, en pleurs et tout ça, et finalement va finir par croire ce souvenir-là. Et cette personne-là, en fait, s'est rendu compte en faisant plus ample recherche que ce souvenir-là n'avait jamais existé. Mais la personne, depuis ce temps-là, a quitté sa famille, a fait des choix de vie vraiment différentes, et ça a complètement bouleversé sa vie, ce faux souvenir. Ça l'a rendu, instable émotionnellement. Donc, c'est très dommageable, en fait, parfois, de jouer cette game-là, de tenter d'éveiller des souvenirs de l'enfance.
C'est incroyable. Il n'y a rien de légiféré autour de ça. Je veux dire, lors des psychologues, lors des ingénieurs, tous ces métiers-là qui ont une incidence sur les gens. Généralement, il y a des ordres, c'est légiféré par des codes de déontologie, mais tout ça, c'est un peu comme l'homéothérapie, l'homéopathie, puis tout ça. On dirait qu'il n'y a pas de... C'est un peu basé juste sur des croyances, puis à peu près n'importe qui peut faire à peu près n'importe quoi au risque... sans risque pour la personne qui initie ça, mais qu'il y a des grands dangers pour les gens qui se lancent là-dedans. C'est particulier.
Ben oui. Puis une histoire similaire était arrivée à la psychologue Barbara Snow, en fait, qui a eu comme patiente Teal Swan, en fait. C'est drôle, hein, parce qu'elle a peut-être appris cette technique-là d'elle, mais elle a été accusée en 2008 d'implanter des faux souvenirs à ses patients. Et elle était en Utah, l'état du Utah, et l'état a allégué qu'elle avait réussi à faire croire à l'un de ses patients la même chose, qu'il avait été abusé sexuellement par son père, donc ce qui n'était pas vrai. Donc, on voit un lien direct ici, là. Et Barbara Snow a accepté une mise à l'épreuve en échange du retrait de ses plaintes par l'État. Puis dans ce cas-ci, si les actions présumées de Snow étaient délibérées, il n'en reste pas moins qu'il est toujours possible d'implanter un souvenir qui n'a jamais existé.
C'est fascinant.
Puis petit lien, en fait, Teal Swan, elle est née au Nouveau-Mexique, mais a longtemps habité en Utah. Hein, puis Barbara Snow aussi. Puis on sait que l'État de l'Utah est très... c'est l'État des Mormons. C'est un État très... sectaire, religieux, extrémiste, tout ça. Donc, elle a vraiment évolué dans un milieu très propice à développer sa propre secte, son propre culte. Teal prétend aussi que nous ne subissons pas réellement de nouveaux traumatismes après l'âge de 8 ans. Donc, elle affirme sans aucune citation, preuve, étude ou autre, que parce que nous devenons capables de rationaliser à l'âge de 8 ans, donc elle se base un peu sur ce qu'on... l'âge de la raison là, qu'on appelle dans les manuels, qu'on retrouve dans les manuels de petite enfance et ces choses-là, là, tu sais. Et elle se base là-dessus pour dire, ben, passé 8 ans, les gens ont la capacité de rationaliser. Donc, c'est impossible d'avoir des nouveaux traumatismes enfouis après l'âge de 8 ans. Mais on sait que c'est faux, tu sais.
Ben oui, tu sais, il y a des adultes qui ont des traumatismes, c'est plein de... Tu sais, c'est une drôle d'affirmation quand même.
Oui, puis dans le livre, je vous cite l'extrait, mais elle dit « Le fait que nous devenions capables de rationaliser à l'âge de 8 ans a de sérieuses implications. Cela signifie que nous ne subissons pas de nouveaux traumatismes émotionnels après l'âge de 8 ans environ. » Donc, c'est clairement cité dans le livre comme si c'était une autorité scientifique. Thiel poursuit en affirmant que tous les traumatismes qui surviennent après l'âge de 8 ans ne sont en fait que le reflet d'une blessure antérieure. De plus, elle ne fournit aucune citation ou preuve pour étayer cette affirmation. Elle s'aventure donc sur des terrains qui peuvent être dommageables pour les gens qui y assistent, surtout en position de vulnérabilité.
Oui, c'est assez incroyable. On dirait que j'en reviens comme pas.
Ben oui.
En tout cas...
Là, je vais vous parler de cas un petit peu plus sérieux qui sont survenus dans la tribu de Thiel. En 2018, les conseils de Thiel Swan vont prendre une autre tournure tragique quand deux personnes de sa tribu vont s'enlever la vie. Tout d'abord, Leslie, âgée de 18 ans seulement, qui était membre de son groupe Facebook avec plus de 20 000 abonnés, là, a publié plus de 100 fois sur le groupe pour différentes raisons. Elle était fascinée par Thiel Swan, elle allait même peindre elle-même des œuvres d'art avec le visage de Thiel. Et quelque part en 2018, elle publie un message expliquant qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours sur le groupe de Thiel Swan et elle cherche à connaître l'expérience des autres face à ce combat là, pour la vie. Le seul message qu'elle a reçu, mais en fait, le message qu'elle a reçu le plus souvent des membres du groupe, parce que bien sûr, il y a des gens qui lui ont dit de ne pas faire ça, mais il n'y a aucun numéro de téléphone, par exemple, de service d'aide ou de site web qui ont été publiés, mais celui qu'elle a reçu le plus souvent, c'est une vidéo de Thiel qu'elle a mis sur sa chaîne YouTube où elle explique sa vision du suicide. Bien sûr, dans la vidéo, Thiel explique que ce n'est pas une solution, que nos proches souffrent lorsqu'on met fin à ses jours, bien évidemment, mais en même temps, elle en parle un peu comme un filet de sûreté. On a parlé un peu tantôt du « reset button ». On a aussi vu dans ses séminaires une pratique douteuse où elle invite les gens à se coucher par terre et à visualiser leur propre mort. Elle affirme que pour certaines personnes, l'aide médicale ou psychologique n'aideront pas sur le long terme. Leslie a donc mis fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête dans un parking d'un Walgreens quelques jours après sa publication sur le groupe. Et ses parents ont été dévastés. Une autre personne maintenant, un certain Ian Thomason, dont on ne connaît pas beaucoup de détails sur la vie, là, a aussi mis fin à ses jours suivant la même publication, là, donc dans les semaines qui ont suivi, la même publication de Leslie. Bien sûr, il est difficile de blâmer entièrement la tribu de Thiel pour ses décès. Évidemment, on sait qu'il s'agit d'une combinaison de facteurs, probablement de facteurs psychologiques aussi. Mais encore, on voit que l'effet de chambre à écho le présent au sein de la communauté peut avoir un effet catalyseur qui nous convainc que seules ces personnes peuvent nous aider, alors que d'autres sources, probablement mieux qualifiées, peuvent le faire. Donc, c'est l'effet d'entraînement, l'effet de groupe, elle cherche des réponses, elle a l'impression qu'elle va en trouver vraiment dans ce groupe-là, et ce qu'on lui suggère, c'est encore du contenu provenant de Thiel. Donc, elle se base là-dessus et elle a peut-être accroché là-dessus sur le fait que, étant donné que, selon Thiel, c'est possible que tu sois irrécupérable, ben c'est peut-être ce qu'elle a constaté, en fait, puis ça l'a poussé à mettre fin à ses jours.
T'sais. Ben oui, parce que si elle consomme du contenu depuis des mois, des années d'elle, elle a confiance en elle, elle a confiance en son discours.
C'est pour son guide.
C'est ça, c'est une personne d'autorité, tu sais, fait que ça... C'est quasiment pas anormal qu'elle ait fait ça, tu sais, elle y croit, donc, oh mon Dieu. Ça...
C'est donc deux personnes, en fait, qui ont enlevé leur vie, là, des membres de la tribu de Thiel. Elle n'a jamais subi de poursuite en lien avec ces deux morts. C'est quelque chose qui est difficile à prouver, évidemment, en cours. Cependant, elle a subi beaucoup de critiques de la part des médias et certains membres de la tribu, en fait, ont quitté le groupe suite à ces événements tragiques. Elle a répondu par des vidéos, par un blog, à tout ça, en expliquant un peu, encore une fois, comment elle voit le suicide, que c'est pas une solution, qu'elle voulait pas se prononcer là-dessus. Puis, tu sais, en plus, elle a maintenant sur son pied de page de cet Internet, ouais, il y a des adresses avec des ressources, okay, okay, pour aider. Mais bon, c'est loin un peu dans,
ouais,
le,
ouais, ouais,
dans le site web. C'est vraiment dans le footer en bas, là. Donc, très, comment dire, vraiment tragique, très triste, ces événements survenus dans la tribu de Teal Swan. Vraiment, c'est troublant d'avoir, comment dire, que tout ça ait mené à des morts humaines comme ça, surtout à si jeune en plus, le 18 ans, là, c'est 18 vraiment, ans, c'est vraiment triste. Puis la mère, j'ai lu des interviews avec la mère de cette fille-là, mm-hmm, Leslie, en fait, sa mère est allée rétroactivement regarder toutes les publications, okay, de, okay, sa fille sur le groupe, tu sais, voyait, ouais, qu'elle envoyait des signaux de détresse, des choses comme ça, ouais, tu sais, mais que, il y avait personne vraiment qui l'aidait, tu sais, puis, okay, elle s'est sentie énormément coupable, elle aussi, la, ben, pauvre,
c'est
mère.
C'est sûr, là, mon Dieu, elle s'est dit, pourquoi j'ai pas vu ça?
Ben oui, ça bouleverse des familles entières, en, mmh, fait, là. Autre chose dont je voulais parler un peu, c'est un peu des abus, là, au sein de son groupe, tu sais. Premièrement, dans les séminaires, les membres de la tribu, en fait, les gens du grand public, là, semblent être des gens, en fait, bien normaux qui, tu sais, je crois pas qu'ils souffrent d'abus de la part de Teal. Tu sais, okay, lorsqu'on regarde des vidéos de son séminaire, ça ressemble un peu à, oui, des fois, il y a des moments assez troublants, mais parfois c'est rigolo, parfois c'est des conseils qui sont valides et tout ça. On, ouais, sent, ouais, pas que Teal utilise son autorité pour abuser des gens qui payent pour assister à son séminaire. Par contre, ceux qui sont dans son cercle rapproché, parce qu'autour d'elle, elle a un directeur des opérations, oui, oui, elle a quelqu'un qui fait plus du marketing, un, mm-hmm, gérant, des gens qui font du contenu, qui la suivent avec des téléphones pour faire du, oui, contenu sur Instagram et tout ça. Ces gens-là, par contre, c'est très, très, très tendu. Là on sent, okay, qu'il y a vraiment des relations toxiques au sein de ce groupe-là fermé, là. Ce qui m'amène à vous parler un peu d'un documentaire, en fait, qui est sorti tout récemment, qui s'appelle The Deep End, oui, en fait, qui est un documentaire en quatre parties sur Hulu, qui est maintenant disponible sur Disney Plus au Canada.
Oui, oui.
Depuis cette semaine. Et dans ce documentaire-là, c'est vraiment, le focus est mis sur les retraites de Teal, tu sais. Okay. Y a des moments qui sont vraiment cool. En fait, ça ressemble un peu à parfois une conférence de Tony Robbins, ouais, tu sais. Y a de la motivation. Elle a vraiment des phrases. Elle a le sens du spectacle. Elle va aller chercher, okay, des phrases qui vont vraiment accrocher les gens, tu sais. Puis elle va donner des bons conseils aussi. Mais tout ça se gâche quand on tombe dans son cercle fermé, là. Par exemple, il y a Blake, en fait, tu sais, qui est un peu la première personne, son premier amoureux, ouais, qui est toujours près d'elle, qui est un peu le directeur des opérations, okay, okay, de son groupe. Il est encore là, il est toujours près d'elle. Puis on sent que Blake a encore... on sent qu'il y a encore une attirance très, ouais, forte, ouais, ouais, envers Teal, tu sais. Il le dit même dans le documentaire, c'est un peu troublant. Mais Blake, en fait, il souhaite refaire sa vie avec une femme, tu sais. Donc, okay, une femme, ouais, ouais, Joanna, qui l'invite dans le groupe.
Okay.
Et cette fille-là vit l'enfer, en fait. On le voit, okay, dans le documentaire. Okay. Il y a un moment donné où Joanna, elle est mise au centre avec tout le groupe de Teal, son inner circle, là, les, ouais, gens, ouais, qui gravitent autour d'elle. Puis ils lui font tous des reproches un après l'autre.
Mais voyons donc.
La pauvre femme, elle est en larmes. Après un certain temps, on dirait qu'elle est complètement morte intérieurement, tellement, ouais, ouais, tellement il y a des abus. On dirait que Teal voit en elle une rivale, mais ou quelque, oui, chose comme ça. Puis le pauvre Blake, en fait, il veut juste avoir une femme, tu sais, il veut, oui, juste, oui, avoir, ben, une, oui, conjointe, ben, oui, et il veut juste se sortir, se libérer un peu de Teal, puis il n'y arrive pas. On voit, les gens sont vraiment traités, là. Teal, elle est toujours, toujours tendue, toujours, toujours très sévère envers son, okay, staff. Elle va sacrer beaucoup, elle va dire beaucoup, ouais, de fuck. Vraiment, là, c'est clair qu'au sein de son cercle fermé, il y a énormément d'abus de pouvoir, c'est dictatorial, là, comme façon de gérer, là. C'est vraiment troublant. On voit aussi des moments troublants dans d'autres retraites. À certains moments, elle va faire du channeling, là, donc elle va, elle, comment dire, elle, elle va canaliser l'esprit de ta grand-mère dans le corps de quelqu'un sur place.
Okay.
Et là, ça va être très difficile. Tout le monde va finir en larmes, mais elle semble avoir ce pouvoir-là de faire du channeling, de pouvoir, par exemple, t'as perdu ta grand-mère, Seb.
Ouais, ouais.
Mais elle, avec une autre personne, va te permettre d'avoir une conversation avec ta grand-mère.
Okay.
Qui va posséder le corps de cette autre personne-là. Donc, t'as des moments troublants comme ça que tu vois live dans le documentaire. Là. Des fois, t'as des personnes individuellement qui vont se faire traiter, tu sais, mais on sait pas qu'est-ce qui arrive, mais tu peux avoir un traitement individuel, une consultation avec Thiel, tu vas entendre des hurlements en arrière, ça semble être très douloureux parfois, là, certains séminaires, là. On voit l'ambiance qui règne, puis c'est définitivement un peu toxique, là, très, très tendu au sein de son cercle fermé, là. Moi, j'ai trouvé ça triste de voir ça. Aussi, un autre contenu que je vous suggère en lien avec Thiel Swan, c'est le podcast de Gateway, en fait, qui est un podcast en 6 parties qui a été produit en 2018 par Gizmodo. Mmh. Et ce podcast-là, en fait, met le focus vraiment sur des interviews avec Thiel, entre autres, et avec ses fans, donc avec des gens qui ont rejoint la communauté. Donc, super intéressant encore à consulter. On y parle des cas de suicide, puis aussi beaucoup des tactiques marketing là, mises en place par Thiel. Mais en gros, il n'est pas survenu d'autres événements depuis. Évidemment, elle conteste ce qui est dit dans The Deep End, mais c'est dur à contester parce que c'est de la vidéo documentaire, c'est filmé, on l'entend parler, on voit les lieux et tout ça. C'est drôle parce que quand tu vas voir les reviews de Deep End un petit peu partout, c'est biaisé parce qu'il y a énormément de membres de la communauté de Thiel Swan qui sont arrivés et qui ont spammé les reviews avec des mauvaises critiques. Donc, elle tente encore de contrôler l'output publicitaire. Elle tente encore de contrôler le message des documentaires qui sortent.
Incroyable. Elle a de l'emprise, hein? Ça n'a pas de bon sens comment elle a de l'emprise.
Oui, énormément.
Sur les gens, son staff, ça.
Ah oui, c'est dur à croire. Moi, quand j'écoutais The Deep End, c'est parce que c'est merveilleusement filmé, c'est vraiment bien tourné, là, ce documentaire-là, mais en même temps, t'as des grandes longueurs, c'est très lent. On laisse beaucoup les choses se passer. Mais tu te sens mal, tu te sens vraiment dans la pièce avec eux. Moi, je l'ai écouté presque d'une shot, les 4 parties. Puis tu te sens presque dans le groupe avec eux. Tu sens les tensions, là, c'est palpable. Tu sens les gens souffrir. T'as des gens qui pleurent devant elle en lui disant qu'ils sont amoureux d'elle, mais qui savent qu'ils n'ont aucune chance. T'as beaucoup de gens qui sont là pour un peu tenter leur chance avec elle. Donc, c'est très triste de voir ces gens-là vulnérables s'accrocher à cette femme-là qui semble être vraiment toxique au fond d'elle. Donc, si... Je vous lance la perche, les distordus. Si vous êtes des fans de Thiel Swan, si vous avez une autre opinion d'elle, laissez-nous le savoir. Si au contraire, vous avez fait l'expérience de contenu troublant venant de sa part, on serait curieux de le savoir aussi. Ou encore, si vous avez assisté à des retraites de d'autres personnes, d'autres gourous, d'autres leaders dont on n'a pas parlé aujourd'hui, eh bien... parlez-nous-en.
Ben oui, je serais curieux d'entendre ça.
C'est dur de closer sur ce sujet-là, Seb. Ouais. On n'avait pas vraiment... C'est un épisode un peu différent. On n'avait pas une intrigue avec des théories.
Oui, exact.
Moi, ce que je retiens de ça, c'est un peu... on en voit beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux, des communes, des projets communautaires, des centres de guérison et autres. Il ne faut pas tous les mettre dans le même panier.
Non.
Je crois qu'il y a des gens qui sont bien intentionnés. Il y a des gens qui vont vouloir vivre un mode de vie alternatif.
Oui, absolument.
Avec les mêmes valeurs. Et ils n'ont aucune raison de se faire détester. Mais on n'a pas le choix de se méfier parce que, mon Dieu, il y en a qui sont là pour les mauvaises raisons aussi. Là. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu as retenu de tes recherches?
Ah, mais c'est un peu comme toi. Puis même, dans mes recherches, je savais pas qu'il y avait autant de cultes qui sont dénombrés aussi là, à l'ère d'aujourd'hui. Là. Quand je cherchais, il y en a partout, dans plein de pays, dans plein de villes, sous toutes sortes d'emprises. Ils ont chacun leur angle. C'est ça l'Internet, hein, c'est que t'enlèves les frontières physiques, fait qu'automatiquement, les gens vulnérables sont encore plus faciles à aller attraper, hein, parce que généralement, ils vont toujours chercher un peu les gens qui sont dans les mêmes périodes de vie, là, où est-ce que ça va pas bien, tu manques de sens à ta vie, t'as pas de support de ton entourage, c'est toujours autour de ces thématiques-là,
exact.
Là, on s'en sort pas, là, donc, puis c'est normal d'aller chercher du soutien, parce que dans la vie, on n'a pas tous la chance d'être bien entouré, hein, des fois, notre famille nous supporte pas, etc., mais si vous vivez des choses comme ça, soyez quand même méfiants, tu sais, parce que ça peut donner du bon, hein, tu sais, les gens se retournent vers ça, puis je suis sûr qu'il y en a que ça apporte un réconfort et tout ça, mais c'est là qu'on dirait que tu perds ton jugement, comme avec Teen, c'est comme si, tu sais, je veux dire, à déformer toutes les notions de psychologie. Je serais curieux de voir, puis c'est sans jugement que je dis ça, mais tu sais, est-ce que c'est une clientèle qui est très éduquée? Mais parfois, c'est même pas ça. Hein. Ils deviennent, tu sais, il est arrivé dans plein de cas de
cycle. Ah, il y a des gens très, très éduqués
oui,
autour d'elle.
Qui se font endoctriner.
T'as là, des gens ça, qui ont été dans des, comment dire, ça veut rien dire, là, mais tu sais, des gens qui ont été des directeurs dans d'autres compagnies, t'as des gens qui sont fortunés, qui sont là, c'est des gens de tout, toute provenance sociale et économique, là, en fait, c'est fascinant.
C'est ça qui me dépasse, on dirait, c'est, puis elle a un charisme que s'il était utilisé à bon escient, parce que de la manière que t'en parles, elle est toxique, mais toxique avec son entourage, toxique, tu sais, quelqu'un qui est toxique avec son entourage, moi, peu importe ce qui paraît, je ne crois pas que c'est une bonne personne jamais, parce que si tu es une vraie bonne personne, tu ne seras pas toxique avec ton entourage. Du moins, tu vas tenter de... Je trouve que tu ne peux pas séparer ça, le personnage. Ça reste un personnage si tu n'es pas comme ça sur scène. Puis même à ça, comme tu dis, elle a un air autoritaire. Qui accroche à ça? Tu sais, on dirait qu'il faut méfiez-vous de ça. Là. En fait, c'est un peu ma conclusion, là, je vous dirais. Là.
Yes. On vous remercie, les distordus, de nous suivre. Vous savez où nous trouver. On aimerait connaître votre opinion sur le sujet. On est partout, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et sur TikTok récemment. Oui. Suivez-nous sur TikTok pour voir nos Disto News. Oui. On vous rappelle que l'épisode est une création de moi-même, Émile Gauthier et Sébastien Lévesque. Oui. Montage d'André Beaupré. La musique de cet épisode est une gracieuseté de Arby. Toute la musique originale de Distorsion pour nos deux ou trois dernière saison, c'est de la musique composée exactement pour l'épisode, c'est pas du stock shot musical, donc gros respect à Arby et aussi, eh bien, on vous rappelle que dans l'after show pour nos abonnés Patreon au forfait Oui Monsieur, on va vous parler d'une histoire très troublante encore une fois de secte à l'heure numérique, le cas de Bentino Messaro, mais on ne peut quitter avant de remercier nos chers membres Patreon.
Oh oui, je commence avec beaucoup d'amour pour Sarah A, Matt S, Vicky F, Manon C et Naila.
Un gros shout-out à Mathilde F, à Jade L, à Lydia, à François LH et à Pauline R.
Et je poursuis avec Simon C, Tristan M, Stéphane, la mystérieuse Élodie et Catherine C.
Beaucoup d'amour à Mathilde A, Marie-Ève F, Karine C, G, à Ludovic B et aussi au mystérieux Bonzilla.
Et je poursuis avec un high-five à Sophie Maude T, Carole B, William F, Pat S et Ayal Sow.
Aussi un gros câlin à Léonie C, à Alexandre P, à Meg S, à Maude S et aussi à Corinne L.
Une poignée de main à Sandra O, aux mystérieux séquences, à Gina L, Marilyn B et David B.
On ne pourrait faire ce show sans l'apport de Julie L, Jessie T, de Alia, de Guillaume C et de Étienne R.
Et je poursuis avec Dominique V, Pauline R, Aurélien R, Sarah Eve AC et France P.
Et pour terminer, beaucoup d'amour à Michael N, à Cécilia O, à Juliette V, à Cynthia SP et encore une fois à l'énigmatique Sir Marky.
Oui.
Et là-dessus, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir?
Si vous avez des idées noires, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Il y a SOS Suicide, Suicide Action ou encore le Centre de prévention du suicide qui sont là pour vous.
Vous n'êtes pas seul.
Oh!